Une soirée exceptionnelle que vous allez vivre ce soir sur TF1. Vous le savez, l'événement de la journée, c'est l'annonce de la mort la nuit dernière de Tino Rossi. Tino Rossi s'est éteint à l'âge de 76 ans au cours de nos différentes éditions du journal télévisé à 13h ou il y a quelques instants. À 20h, nous vous avons rappelé ce qu'a été la vie de Tino Rossi. Une vie pleine, une vie pleine de chansons, d'amour et puis aussi de rêves dispensés, ce qui ne fait pas de mal souvent à notre époque. Alors ce soir, Hervé Bourges, le président directeur général de TF1, a décidé, et pour la première fois dans l'histoire de la télévision, qu'il fallait tout de suite modifier les programmes. Alors au lieu des programmes qui vous ont été annoncés, eh bien vous aurez droit à une grande soirée consacrée à Tino Rossi. Généralement, c'était le lendemain ou le surlendemain. Eh bien non, ce soir, c'est immédiat. C'est immédiat avec, dans quelques instants, la diffusion d'un spectacle, j'allais dire de rêve, un spectacle du merveilleux que savait dispenser Tino Rossi. Ce spectacle, vous l'avez peut-être vu en 77, Mariti et Gilbert Carpentier, une fois de plus, nous faisaient vivre un grand moment de variété à la télévision. Marion Sarraute assurait la réalisation et c'était un spécial Tino Rossi, un numéro un pour une nuit exceptionnelle pendant les fêtes de fin d'année. Dans quelques instants, le numéro un Tino Rossi et puis juste après, tous ceux qui sont autour de moi vont vous faire vivre, j'allais dire presque, puisque Guy Béard est là, une bienvenue à Tino Rossi, bien qu'il soit aujourd'hui ailleurs. Tino Rossi, c'était un homme de rêve, de merveilleux. Alors nous allons essayer tout simplement, avec ceux qui sont mes invités et que je vous présenterai tout à l'heure, après le spectacle des Carpentiers, nous allons essayer de faire revivre ce rêve, ce merveilleux, sans pleurs, sans se réjouir outrageusement, mais simplement avec la bonne humeur, le rêve, le merveilleux et la poésie. Voilà, cette soirée exceptionnelle commence maintenant. Et le rêve, le voici tout de suite, c'était en 1977, le numéro 1 était déjà depuis longtemps, Tino Rossi. Voilà, c'était en 1977, un soir de Noël, il n'y aura pas de Noël 83 pour Tino Rossi. Mais il nous reste présent par le souvenir de la télévision et de cette nuit merveilleuse, comme il nous en a donné bien d'autres, et aussi à travers les galas, les récitals, les rencontres, avec cet homme qui, jusqu'à 76 ans et pendant une très longue carrière, nous a vendu un peu de rêve, un peu d'émerveillement et beaucoup de poésie. Mireille Mathieu était dans le show des Carpentiers, réalisé par Marion Sarraute. Nous allons la découvrir dans un instant et évoquer avec elle cet homme qui fut si proche de la petite Mireille. Et puis, avec tous ceux qui sont là, que je vous présenterai tout à l'heure, nous allons parler de Tino Rossi. Ils l'ont rencontré, ils l'ont chanté, ils ont bavardé, ils ont admiré, ils ont été marqués par le personnage. Tout à l'heure, eh bien, nous parlerons de Tino Rossi. Mais puisque le spectacle continue, eh bien que Tino Rossi soit encore présent sur vos écrans ce soir.
J'aime tes prairies et ton maquis sauvage. J'ai vu
des lieux enchanteurs, pour autant, au fond de mon corps, je t'appartiens. Vieni, 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 tu sei bella, bella, bella.
Tino Rossi vous dit bonjour. Parce qu'il y a le Tino Rossi que vous avez devant vous, et puis l'autre, le Tino Rossi de la légende, celui qui avait un œil de verre, qui avait la jambe de bois, qui ne savait pas chanter. On a même dit que je ne savais pas jouer de la guitare. Pour un Corse, vous vous rendez compte? Entre nous, je n'en joue pas beaucoup, mais enfin, j'en joue quand même un petit peu. Remarquez, depuis, les patients se sont calmés, mais de temps en temps, on entend encore « c'est vrai qu'il a un œil de verre ». Mais enfin, c'est plus rare.
Voilà, tout de suite dans le bain, j'allais dire. Je tiens à vous dire que cette émission, nous l'avons préparée très rapidement, en quelques heures aujourd'hui, et que nos invités ont fait l'effort de venir aussi très rapidement à l'appel qu'avec TF1, nous leur avons lancé. Merci aussi au personnel qui ont permis la réalisation de cette émission, parce qu'ils ont à faire le journal, nous sommes dans le studio du journal, et il fallait un travail supplémentaire pour pouvoir réaliser cette rencontre, et j'allais dire presque Guy Béard, cette bienvenue Tino Rossi. Quand on entend ce qu'on vient d'entendre dès le début de cette émission, on n'a pas envie de pleurer.
Si on a aussi envie de pleurer, plus il chantera gai, plus moi j'aurai les larmes aux yeux. Ah. Et il faut dire que j'avais une passion d'enfance pour Tino Rossi, comme toutes les passions d'enfance, je l'ai gardé toute ma vie.
Ouais. Alors je voudrais montrer tout de suite, là vous m'avez apporté un disque, Après toi, je n'aurai plus d'amour, c'est un 78 tours, et de l'autre côté, je voudrais un joli bateau. Ce sont deux chansons de votre époque, ça? De votre enfance?
J'avais 8 ans, et je les connaissais par cœur, comme je connaissais pratiquement tout Tino Rossi. Mais je ne vais pas vous chanter tout entier, il le chante 1000 fois mieux que moi.
Ouais.
Et alors, c'était très émouvant. Après toi, je n'aurai plus d'amour. Après toi, mon cœur sera fermé pour toujours. Ici-bas, rien ne m'attire que ton sourire. Ici-bas, rien ne m'aime que tes grands yeux si bleus. Tout en moi t'appartient sans retour. Après toi, je n'aurai plus d'amour.
Oui, ce n'est pas une émission de variété que nous vous convions ce soir. C'est simplement une évocation, comme ça, à travers des souvenirs de celui qui a disparu aujourd'hui et qui peut-être, quelque part, est déjà en train de nous regarder sur TF1. Alors, nous l'avons vu souvent sur TF1, au cours de ces dernières années, dans le journal de 13h, très souvent, c'était le cas à Notre-Dame-de-la-Garde, c'était le cas au Parlement européen, vous vous souvenez, où il avait chanté la chanson pour l'Europe. Nous l'écouterons tout à l'heure. Mais souvenez-vous, l'un des derniers grands moments d'émotion de Tino Rossi, à part ce spectacle au Casino de Paris que j'évoquais dans notre édition de 13h, eh bien, ça a été à Marseille. Ah, la Légion d'honneur. Il avait chanté Napoléon, il avait chanté le ruban rouge, et puis, après avoir chanté ou fredonné l'Ave Maria devant Notre-Dame de la Garde, c'est le maire de Marseille lui-même qui lui remettait la cravate de commandeur.
Ave Maria.
Nous faisons commandeur de la Légion d'honneur.
C'est un talisman qui sur la poitrine fait souvent germer le bien dans les cœurs. Il étend sur nous une main divine, une croix, mon fils, ça porte bonheur. Une croix, mon fils, ça porte bonheur. Lorsque je partis, jadis pour l'armée, j'embrassais ma mère et ma bien-aimée, qui me dit tout bas, prends cette croix d'or, jusqu'à ton retour, garde ce trésor. C'est un talisman qui sur ma poitrine d'amour et d'espoir fait battre mon cœur. J'étais protégé par la main divine. Une croix, mon fils, ça porte bonheur. Une croix, mon fils, ça porte bonheur. Je me battis bien, bravant la mitraille. Je pris 20 drapeaux en mainte bataille. Au pauvre sergent, un jour l'empereur lui-même a donné cette croix d'honneur. C'est un talisman qui sur ma poitrine fait pleurer mes yeux et bondir mon cœur. J'étais protégé par la main divine. Une croix, mon fils, ça porte bonheur. Une croix, mon fils, ça porte bonheur.
Voilà, un moment... Il aimait bien, en définitive, les honneurs, Tino Rossi. Sans beaucoup en parler, mais il y avait à la fois l'émotion et puis aussi la fierté. Après tout, c'est normal. Quelqu'un de la chanson française couronné de son vivant, porté à ce haut niveau, c'est plutôt rare. Alors il faut s'en féliciter. Moi, je voudrais que Guy Béat passe son micro à Gérard Lenormand, parce que je voudrais savoir, en définitive, pour vous, un jeune, qu'est-ce que ça représente, Tino Rossi ?
Bien, disons que Tino Rossi, moi je le connais surtout, bon, ben, je l'ai connu quand j'étais tout petit, hein, bien sûr, puisqu'il était très présent, et puis comme l'univers de la radio était un univers que je connaissais bien, puisque je vivais assez solitaire, disons, et la radio était très importante pour moi, donc automatiquement Tino Rossi a été très important très vite dans ma vie. Je connais aussi Tino Rossi surtout à travers ma mère, à travers mes tantes, à travers mes cousines, à travers mes grands-parents aussi, parce que c'était l'idole, c'était ce qu'on rêve tous d'être un jour, nous chanteurs.
Oui, Dalida par exemple, c'est quand même fascinant dans le monde de la chanson, quelqu'un qui occupe le terrain sur, Gérard Lenormand vient de le rappeler, sur plusieurs générations. Après tout, c'est le rêve de chacun d'entre vous.
Absolument, c'est extraordinaire. Et quand on pense que finalement, avec la disparition de Tino, qui c'est le dernier de la génération Compiaf, Maurice Chevalier et Cocteau, et en même temps qu'il y a des millions et des millions d'enfants qui perdent leur petit Papa Noël, c'est extraordinaire, c'est paradoxal.
Ouais. Mireille Mathieu, c'était un homme, bon, vous l'avez suivi jusqu'à ces derniers instants, et c'est peut-être difficile pour vous d'en parler, mais c'est un homme qui, dès le début de votre carrière, a été un homme, disons, de bon conseil, de protection, j'allais dire.
Oui, je voudrais dire que Tino a bercé mon enfance, parce que chez moi, à la maison, j'étais bercée par les disques de Tino. Et puis, Tino, je le compare, moi j'étais l'élève et Tino en professeur, c'était un géant de la chanson. Je le compare aussi à Maurice Chevalier, il tenait les mêmes propos, le respect du public, il aimait son métier, il aimait vivre, c'était le soleil dans sa voix.
Il vous appelait comment ?
Mireille, ma Mireille. Petite Mireille.
Ouais. Avec un côté un peu protecteur.
Tout à fait, oui.
Et quelques conseils en dehors du public.
Beaucoup de conseils.
Qu'est-ce que ça donnait, par exemple, je sais pas.
Mais c'était comme Maurice, le respect du public. Il aimait son public, il devait tout au public. Il disait, je dois tout au public. Moi, j'étais émerveillée parce que entendre Monsieur Tino Rossi parler ainsi, alors je me disais, moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup à apprendre.
Ouais. Il paraît que c'était quelqu'un qui disait aussi, il faut chanter, chante donc l'amour plutôt que les casseroles sales, non ? C'est pas vrai, Dalida ?
Oui, je l'ai entendu dire.
Ouais. C'était quelqu'un qui aimait qu'on chante le rêve, la passion, la poésie, les choses belles, non ?
Mais oui, mais c'était quelqu'un qui nous apportait énormément de rêves.
Eh oui, peut-être c'était aussi quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire. Alors, puisque Tino Rossi avait beaucoup de choses à dire à son public, écoutons-le parler de son public.
La mode, disait Sacha Guitry, est ce qui se démode. Alors apparemment, vous n'êtes pas une mode, parce que...
Il avait raison. Il avait raison, parce que si j'avais été une mode, je ne serais plus là.
En dehors de votre talent, comment expliquez-vous la fascination que vous exercez sur le public ? Vous êtes le plus connu, enfin aux yeux des Français, le plus connu et le plus aimé de tous les chanteurs.
Mais je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je chante comme je suis. Enfin, j'apporte ce que j'ai en moi. Maintenant, est-ce que les gens qui fascinent un public ou un auditoire, est-ce qu'ils savent comment? Je ne sais pas. Et les orateurs les fascinent avec leur voix. Et moi, je les fascine aussi avec ma voix. C'est sûrement ma voix, parce que je ne vois pas autre chose.
Lorsque vous avez débuté, comment imaginiez-vous votre carrière?
Mais j'ai toujours eu confiance. Enfin, confiance... il a fallu toujours gagner, hein, parce que chaque fois que je fais une rentrée, les gens sont toujours étonnés. Je me demande de quoi. Et ça marche toujours. Maintenant, à 75 ans, j'ai fait une rentrée où on a refusé du monde pendant plus de 2 mois.
Toi qui regardes la mer, tu es seul avec tes souvenirs, et malgré tout ce bleu, tout ce vert, tu es triste à mourir. Mais quand tu fermes les yeux, un refrain qui te parle en argot fait valser les jours heureux avec l'odeur du métro. Chacun s'évade à sa façon, chacun son rêve papillon. Toi qui regardes la mer, tu ne vois même plus l'horizon. Tu regardes 20 ans en arrière, et c'est loin, et c'est bon. Paris existe toujours, et quand vient le printemps, on peut voir les voyous flâner autour des marronniers, des boulevards. Les yeux fixés sur un jupon, tu te souviens, papillon. Quand le soir tu t'endors, en pensée tu retournes chez toi. Te voilà dans ton décor, ton petit hôtel, ton tabac. C'était tout ça ton univers, toi qui regardes l'homme. S'attarde, belle fille, attendez son retour, attendez, et pour autant prenez garde, car son chant c'est celui de l'amour. L'aria, quand il reviendra, l'aria, il vous sourira, l'aria. Puis il vous prendra dans ses bras. Votre cœur dira oui par mégarde, et alors votre cœur sera pris. Car le chant d'un gardien qui s'attarde prend les cœurs et les garde pour lui.
Voilà, comme Guy Béard, on a envie d'applaudir sur le plateau comme s'il était des nôtres. Jean-Christophe Averty, merci d'avoir interrompu quelques instants le tournage de votre prochain Bazar. Mais comment s'est fait la rencontre? Parce que c'est assez étonnant, c'est surréaliste, Averty et Rossi.
Du tout, j'ai connu M. Tino Rossi par Roland Gerbeau qui me l'a présenté en 1959, je crois. Et la première fois que j'ai tourné avec lui, avec M. Tino Rossi, c'était en 72. Et le show est passé le 21 décembre 73. C'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, d'avoir tourné avec cet homme-là. Et c'était presque une gageure de filmer Tino Rossi, parce que personne ne s'attendait à ce que je m'entende bien avec lui. Or, ça s'est passé très très bien, et j'étais... C'est un des meilleurs tournages que j'ai jamais eu. Nous sommes vraiment entrés en osmose, si je puis dire. C'était un homme particulièrement intelligent qui avait un comportement devant la caméra extrêmement fin, extrêmement lucide, devinant presque les trucages que je lui préparais en dos. Et il me disait, c'est si bon ce que vous faites que c'est pas la peine de me mettre devant. Et alors, c'était ce matin quand j'ai appris sa disparition, ça m'a fait vraiment pleurer. Pour de bon, parce que je trouve que... On fait tellement de foin, des fois, pour la mort de gens qui ont versé du sang et fait souffrir le monde par les guerres, les grands généraux, les grands présidents. Et somme toute, lorsque l'on ensevelit un homme comme Tino Rossi, ou un homme comme Louis Armstrong, ou comme Duke Ellington, on n'en parle pas assez. On devrait peut-être consacrer plusieurs semaines à un homme comme Tino Rossi à la télévision. Parce qu'il a apporté tellement de plaisir et tellement de gentillesse. Et c'était un aide à vivre. Et pendant presque 5 décennies, cet homme a aidé les hommes à vivre par des chansons. On a souvent contesté ses textes, mais par sa voix qu'il avait naturelle et extraordinaire, il les a transcendés. Et je crois que cet homme mérite un grand coup de chapeau, et surtout pour celui qui l'a servi le mieux du monde. J'ai fait tous mes efforts pour qu'il soit bien, et il était content de voir ce show, je pense. Voilà.
Dites-moi, vous avez, je le sais, parce que la façon dont vous en parlez et l'amour que vous transmettez à travers... ce que vous venez de dire, cet amour que vous portez à Tino Rossi, à cette représentation qu'il était de la chanson française, je sais que vous avez à côté de vous un document qui vous tient beaucoup à cœur.
Bien, écoutez, il y a deux, trois mois, j'ai trouvé dans une revue de 1948 un article où Tino Rossi tenait son fils qui venait de naître dans ses bras. Alors j'ai envoyé une photocopie de ce document à Ajaccio. Et il m'a répondu au mois de septembre, une petite carte, merci pour ce document que vous nous avez fait parvenir, nous sommes très heureux de l'avoir, à bientôt à Paris, amitié Tino Rossi. C'est la date, faites un gros plan Yves, voilà, du 8 septembre 83, et c'est peut-être le dernier mot qu'il a écrit jamais à un metteur en scène. Je suis content que ça soit à moi.
Merci Jean-Christophe Averty, et merci de tout ce que vous avez transmis par ces quelques instants de télévision pour vous, homme de télévision. Je sais que c'est important, on n'utilise pas le temps.
Vous transmettrez mes amitiés à Mme Rossi, s'il vous plaît.
Bien, mais j'espère en tout cas qu'elle recevra cette émission dès qu'elle aura, après l'épreuve, l'occasion de la voir. Merci Jean-Christophe. Mais je voudrais dire, et nous écoutions Jean-Christophe Averty, et nous écoutions aussi avant Tino Rossi parler du public. Moi, je voudrais savoir l'avis d'un spécialiste. D'abord, vous avez bien connu Tino Rossi personnellement, Georges Craven, vous êtes homme de communication. Alors, quand il dit ce qu'il dit sur son rapport avec le public, vous, comment vous l'analysez en homme de communication? Qu'est-ce qui marchait avec Tino Rossi?
Ce qui marchait, c'est le miracle de la présence, le miracle de cet homme qui a été de génération en génération. Je me rappelle qu'en 1972, je lui avais demandé de venir chanter à l'école maternelle où mes enfants, qui avaient 5 ans et 3 ans à l'époque, étaient, à Noël, de venir chanter « Petit Papa Noël ». Il a chanté devant toute l'école réunie, il y avait des enfants, et les enfants ont repris en chœur la chanson, par cœur et en chœur. Et pour Tino Rossi, ça a été un grand moment parce qu'il s'est rendu compte, là, d'une façon directe et matérielle, qu'il était l'homme de toutes les générations. Et c'est ça le miracle, je veux dire qu'il n'y a pas d'autre explication.
C'est ce que disait le Normand tout à l'heure.
Oui.
Ouais. Alors, l'homme de plusieurs générations, je suis sûr qu'il y a... Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas connu directement Tino Rossi sur scène, quoi qu'il soit passé encore au Casino de Paris l'année dernière. Mais je suis sûr que si vous écoutez l'accordéon d'Yva Thorner et si vous écoutez nos invités fredonner, vous fredonnerez aussi ce soir. Et ce sera le plus bel hommage de toute la France réunie devant les postes de télévision à Tino Rossi, qui nous écoute certainement quelque part. Écoutez, vous vous souviendrez et vous chanterez. Yvette, l'accordéon, je suis sûr que pour vous tous, ces refrains évoqueront quelque chose. À travers ces quelques refrains, Tino Rossi à nouveau parmi nous. Je voudrais savoir, tout à l'heure, moi ce que j'ai remarqué, et vous l'avez sans doute noté, si vous ne le connaissiez pas bien, c'est que dans ses déclarations, il avait beaucoup d'humour. On le disait ou on pouvait le croire froid, eh bien non, il avait de l'humour. Je voudrais savoir, Thierry Luron, comment il réagissait quand vous l'avez imité pour la première fois?
Il m'a dit, mais je chante vraiment comme ça.
C'est la première chose qu'il a dit.
Oui, je crois, oui. Puis vous savez, Tino, je lui dois un peu ma carrière, en quelque sorte. J'ai d'ailleurs écrit un mot à son épouse et à son fils pour le rappeler, parce que mon père était marin, était navigateur, et quand il venait en permission à Paris, il passait tout le temps les disques de Tino Rossi, son idole. Ce qui fait que vers l'âge de 6-7 ans, quand j'ai commencé à faire des imitations, j'ai imité les deux grandes stars de l'époque, qui étaient Tino et le général de Gaulle. Ça a été mes deux premières imitations. Je crois que c'était deux personnages aussi importants, l'un que l'autre, pour leur époque.
Je chantais les louanges, j'avais le temps, je les chante toujours. Moi qui croyais n'adorer que les anges, aujourd'hui j'aime à chanter leurs amours. Tout compte fait, vous êtes bien aimante, et vos attraits sont toujours séduisants. Plus je vieillis, plus je vous vois charmante, que je voudrais avoir. je n'ai plus 20
ans. La 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 la. Qui ne connaît pas toutes les chansons de Tino Rossi, mais tout le monde les connaît. Et les rechante, et on les transforme, on les met en pop. Enfin, Tino, il sera de toutes les époques, je crois, Tino.
J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé de l'amour qui durerait toujours. Notre pauvre roman est fini désormais, et nos deux cœurs n'ont plus l'espoir d'autres beaux jours. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre le bonheur d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours.
Moi, je suis resté fidèle à la chanson d'amour. Tout jeune, je chantais des sérénades sous les fenêtres des belles, et je continue. L'amour, c'est là où l'homme est le plus engagé.
C'est un homme, Robert Manuel, c'était un homme qui dispensait cette atmosphère d'amour.
Je vais vous dire, je m'amuse beaucoup à vous écouter les uns et les autres, évoquer vos souvenirs, mais moi, ça fait tout de même 50 ans. Que je le connais, en effet, j'étais très lié avec une personne du Casino de Paris en 1933, et depuis Parade de France, moi j'ai pas quitté Tino Rossi, on se voyait de moins en moins, et chaque fois qu'on se voyait, il me dit, oui je sais, tu vas me dire que ça fait 50 ans que tu me connais, et que tu m'as vu dans Parade de France. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était récemment, puisque j'ai été le voir au Scudo à Ajaccio, et il m'a dit, oui, je sais bien que tu vas me dire, et je lui dis, tu vas voir, je vais jouer une pièce bientôt, un vieux couillon qui a 76 ans comme toi. Alors il me dit, et tu penses véritablement ce que tu dis? Non, pas du tout, parce qu'il avait minci, il était beau comme un dieu, et je le retrouvais exactement 50 ans plus tôt. C'est fou ce qu'il avait pu mincir, et éventuellement par sa maladie, mais il avait l'œil clair, et pour moi c'est une grande joie de l'avoir vu encore il y a un mois. J'ai eu l'occasion de le mettre en scène également dans Le Marchand de Soleil. Et il est arrivé une chose curieuse, c'est qu'il devait jouer un clochard. Un clochard, c'était un grand bourgeois, bien sûr, qui devait se mettre dans les habits d'un clochard pour répandre le bonheur et le soleil autour de lui. Ben, il n'a jamais pu y arriver.
Comme d'habitude.
Non, c'est pas ça. On lui mettait des oripeaux, on lui mettait des plaides sur le dos, il ne pouvait pas. C'était un seigneur, car il a été toujours un seigneur. Il y a une chose qu'a dit tout à l'heure Mireille Mathieu, qui m'a profondément bouleversé, c'est que c'était comme Maurice Chevalier. Comme Maurice Chevalier, le travail, le public, l'honnêteté. Et je me souviens avoir été dans un déjeuner avec Tino et Maurice à Marne-la-Coquette, où ils tombaient d'accord l'un et l'autre, qu'ils étaient avant tout le docteur Soleil. Ils apportaient le soleil.
Qu'est-ce que ça donnait un dialogue Tino Rossi-Maurice Chevalier à table?
Oh, c'était étincelant.
Alors, allez-y.
Étincelant, parce que Maurice Chevalier essayait de le mettre en boîte, et jamais Tino ne s'est laissé mettre en boîte. On disait qu'il avait des gestes lents, il le savait très bien, des gestes amples, d'ailleurs on le voit quelquefois quand on voit M. Thierry Luron. Eh bien, il le savait, Et il en plaisantait lui-même. Et une conversation entre Tino et Maurice Chevalier, c'était un régal, parce qu'il se mettait Tino imitait la lippe, et disait, ben moi, je vais parler aussi comme ça, et puis ça ne donne à rien. Et avant toute chose, c'était l'humour et l'amour qu'ils avaient pour leur métier.
C'est ce qu'on sentait quand on travaillait avec lui pour la télévision. Nous avons vu le show de 77, mais combien de fois l'avez-vous rencontré, Maritier Gilbert Carpentier?
C'était merveilleux, cette impression de professionnalisme et surtout de respect du public, comme l'a dit Mireille. C'est étonnant, et aussi son humour. Car le lendemain de la diffusion du show que vous avez vu tout à l'heure, je lui ai téléphoné pour lui dire, Tino, vous avez fait 82%. Il dit, tiens, ça doit être une erreur, on aurait dû faire 90.
Il y avait quel rapport avec l'équipe technique? Il arrivait, quand on parlait de Seigneur, à propos de oui. son attitude, il arrivait Seigneur sur le plateau?
Il arrivait Seigneur sur le plateau à l'heure pile. Et il commençait à regarder l'heure où ça devait se terminer, en disant, je ne donnerai pas 2 minutes de plus, je suis arrivé à l'heure, je finirai à l'heure. Et toujours avec son petit ton tranquille, il disait, attention, là peut-être que je vais bouger un peu. Puis il prenait un temps, il disait, je ferai 3 pas. Mais nous avions eu la grande joie avec Laurent Rossi de mettre en scène son spectacle au Casino de Paris. Et je lui avais dit, il avait eu un triomphe et une ovation le soir de la Générale, je crois que vous y étiez Yves. Et après, j'étais très émue de ça et je lui avais dit, 50 ans après, comme ça, au Casino de Paris, tant de succès, tant de triomphe, qu'est-ce que ça vous fait? Il m'a dit, ça me rappelle que j'ai eu 50 ans de critique.
Il était sensible?
Je lui avais demandé justement, et il m'avait dit non, pas vraiment, parce que je m'étais cuirassée et je ne voulais plus les lire. Je ne les lisais pas, mais de temps en temps, je m'informais. On me disait, ça continue. Alors je disais, bon. Et moi, de mon côté, j'estimais que je ne devais pas les lire, ni les écouter, parce que je savais très bien quand j'avais été moins bon, et j'avais besoin de personne pour qu'on me le dise.
En tout cas, puisque vous disiez, il y a quelques instants, que c'était un homme toujours à l'heure, je lui avais fixé un rendez-vous. C'était un rendez-vous... politico-musical. C'était à l'occasion de l'ouverture de la première session du nouveau Parlement européen, l'Assemblée européenne. Madame Simone Veil allait monter à la tribune, ou plutôt, elle y montrait quelques semaines plus tard. L'Assemblée allait être présidée pour l'ouverture par la doyenne d'âge, Madame Louise Weiss, qui depuis lors a disparu. Et j'avais fixé un rendez-vous pour TF1 Actualité 13h, à Tino Rossi, à Strasbourg, au Palais de l'Europe, et bien ce jour-là, avec la chanson « De rêve et d'espoir pour l'Europe », il était au rendez-vous de TF1.
Un jour l'enfant de Paris offre avec amour à ceux d'Italie un bouquet de fleurs venues de Hollande ou bien d'une Europe unie et réunie par le bonheur. Toutes ces couleurs feront un drapeau et chantent le cœur d'un espoir nouveau. Il faudra qu'un jour une autre raison. Il faudra qu'un jour la même chanson ne soit plus serment, mais réalité plus sûrement, et que notre espoir devienne.
Je voudrais demander à Guy Béard, en définitive, il y avait un balancement, c'était fantastique. Là, vous étiez presque tous en train de vous balancer de droite à gauche. Il y a toujours une espèce de mouvement porteur du corps dans les chansons de, dans les chansons de Tino Rossi.
Parce que vous dites ça parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient deux pas à gauche et...
Non, mais à chaque fois qu'on entend une chanson, vous ne trouvez pas ?
C'est-à-dire, c'est l'entrain. Et je me souviens de ces chansons qui étaient très bien écrites, avec jolie musique. Sous le ciel de mon beau pays, il n'y en a pas une comme ma brune, et depuis qu'elle m'a souri, il n'y en a pas une qui m'a séduit. Bon, je pourrais la continuer indéfiniment, mais on l'écoutera par lui beaucoup mieux. Toutes ces chansons portaient la vie. Et puis il avait de merveilleux auteurs et de merveilleux compositeurs, Vincent Scotto. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, etc. C'était la bande de Pagnol, Fernandel, Tino Rossi, Rému. Castan, et Tino était le petit, en fait, pour eux. Il était le... Oui, on est toujours le petit de quelqu'un, à un moment donné. Et bon, ils le portaient aussi comme leur enfant. On a parlé de sa présence. Il faut quand même parler de sa voix. Il avait une voix extraordinaire qui touchait les gens. Il était un de ceux qui avaient su se servir du micro, les premiers, avec Sablon, avec Jean Sablon. Et il choisissait de très jolies chansons qu'il rendait populaires. Par exemple, il choisissait la romance de Paris, du jeune aussi, Charles Trenet, du tout jeune. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle sourit. Elle a le dit aux amoureux, un peu de rêve et de ciel bleu. Il y avait une grande qualité. Tout à l'heure, Yvette a joué deux fois au Catarinetta Bella Cicci. On lui a reproché 25 fois au Catarinetta Bella Cicci. Parce que, bon, c'était un bon cheval. Je parle de la chanson, très populaire. Dans la popularité, il y a toujours un petit peu de facilité aussi pour être près des gens. Il faut le comprendre. Et c'était une vedette, une immense vedette populaire qui touchait le cœur des gens. Alors, on attaquait... Catarinetta Bella Cicci, que tout le monde chante d'ailleurs, y compris moi-même. Mais on oubliait exprès certains de ces textes très jolis, des textes de Delmé qu'il chantait. Je peux vous en chanter 140, mais je vais m'arrêter. C'est-à-dire, il portait aussi ce qu'il y avait de beau et de nouveau, comme Maurice Chevalier, son ami, confrère, contradicteur. Il se disputait, enfin, il s'asticotait, comme l'a dit si bien
Robert Manuel.
Oui. Et je me rappelle une fois... J'étais chez Maurice Chevalier, j'habitais à côté. J'habitais une pièce et demie, j'étais un jeune auteur, alors j'allais voir les grands. Et puis alors il disait, oh, tu n'auras aussi ceci, tu n'auras aussi cela, parce qu'en France c'est un grand jeu national. On attaque ses contemporains, on encense les anciens. Et alors en général on dit, oh, la jeunesse n'est plus ce qu'elle était, etc. Bon, Tino Rossi ne disait pas ça du tout, puisqu'il avait un fils qui était jeune aussi, et qui chante. Et puis je chantais des chansons à Maurice Chevalier, puis on est resté une heure et demie. Et puis il m'a dit, oui, Tino, c'est ça, ceci, cela, c'était son ami. Et puis je suis rentré à la maison. Tino Rossi est arrivé, on s'est dit bonjour, on s'est revu après. J'étais très impressionné, j'avais 24 ans, je crois. Et puis je suis rentré à la maison, et puis j'ai vu par la fenêtre qu'ils étaient restés jusqu'à 2h du matin. Moi, j'étais resté jusqu'à 8h, alors j'étais jaloux. Le lendemain, je voyais Maurice Chevalier. Je lui ai dit, alors bon, bah, vous vous cassez du sucre, etc., sur le dos, en s'amusant. Et vous restez avec lui jusqu'à 2h du matin. Il m'a dit, ah, on ne discutait pas musique. On discutait problème d'impôt.
Et vous discutiez de quoi quand vous le rencontriez, Dalida ?
Malheureusement, je ne l'ai pas beaucoup rencontré. Simplement, hasard des émissions de radio et de télévision comme ça dans les couloirs. Mais je sais qu'il avait beaucoup d'humour. Et je connais une histoire qu'on m'a racontée, d'ailleurs. Et je pense aussi que Tino Rossi aurait pu faire une carrière internationale extraordinaire s'il n'avait pas peur des avions. Et comme il ne prenait jamais l'avion, une fois il devait partir pour l'Amérique chanter là-bas, et il a envoyé tous ses musiciens avec son chef d'orchestre par avion, et lui il a pris le bateau. Mais au dernier moment, il a appelé quand même son chef d'orchestre en lui disant, écoute, donne-moi quand même toutes les partitions, car on ne sait jamais ce qui va se passer.
Comment vous arriviez à travailler avec cet homme qui pouvait être appelé à droite et à gauche, Félix Marouani, et qui ne voulait pas prendre l'avion ?
Ah si, il a fini par le prendre.
Il a fini par le prendre.
Il a fini par le prendre, oui, puisque il a fallu qu'il aille à Ajaccio et il n'est pas beaucoup les longs voyages. Mais au début, il a fait, par exemple, nous l'avons une fois engagé en Pologne, il est parti en train. Et il n'a pas su, autrement il n'aurait pas pris le train, qu'il n'y avait pas de wagon-restaurant. Et il a eu faim. Et tout le long, il a rouspété contre le second train, etc. Et retour, il a pris l'avion.
Ouais. C'était un homme facile dans le travail de tournée, de récital.
Ah oui, très
facile. Qu'est-ce qui décidait de sa carrière? Vous un petit peu, lui complètement, vous un petit peu
ensemble,
plus comment?
Ensemble, on en discutait beaucoup. Il aimait beaucoup parler de son métier. Et avant de prendre une décision, il prenait son temps. Et quelquefois, il ne la prenait pas, la décision. Ouais. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il avait un bon sens extraordinaire, un bon sens de paysan, un bon sens
de la terre.
De la terre. Il faut vous dire que c'est mon premier client et je suis son premier agent. Et j'ai signé avec lui un contrat de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'il dit un contrat d'exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi?
Il avait quel âge?
Nous avions le même âge, 27 ans. Et son premier contrat, c'était au Casino de Paris en 34, non pas comme l'a dit
Robert
Manuel en 33. Et il avait 100 francs par jour. Et je savais, moi, qu'il allait devenir une grande vedette parce que j'avais entendu un disque de lui dans le midi où c'était pas un disque de lui, il chantait un refrain d'un tango, de Bachicha. Et il est venu un jour à mon bureau, je venais du midi, et il m'a dit, je vais vous faire entendre mon disque. Je dis, c'est pas la peine, je vous connais. Mais comment, c'est mon premier disque? Je dis, non, c'est pas votre premier. Il dit, l'autre te compte pas, etc. Enfin, et finalement, comme je le voyais un petit peu méfiant, je dis, on va signer un contrat de 6 mois après la revue du Casino de Paris, qu'est-ce que ça vous coûte? Il dit, d'accord. Et nous signons, c'était en 1934, un contrat de 6 mois qui n'a jamais été re-signé. Et qui a duré jusqu'à ce que je me retire du métier. Et c'est mon fils maintenant qui a continué les quelques années de travail. Et il faut dire que...
Les rapports humains comptaient plus que la signature.
Beaucoup plus. C'est 50 ans vraiment de travail et d'amitié.
Marie-Thie Carpentier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je pensais à une anecdote. Non, c'est pas une chose de métier, mais c'est parce que je trouve qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur la séduction du personnage, parce qu'on parle toujours de Valentino comme le grand séducteur, et puis nul n'est prophète dans son pays. On ne se souvient plus assez.
Mais on va en parler. Alain Beverini, qui est là, va nous en parler tout à l'heure.
Ah, pardon.
Car il y a la carrière cinématographique dont on va parler.
Enfin, je voulais
et
simplement
la conquête des salles noires.
Voilà. Mais je voulais simplement raconter que il nous avait dit une fois, quand nous extrayons des petits extraits de films pour le Casino de Paris, il nous avait raconté qu'il y avait une de ses adoratrices qui le suivait partout et qui, n'arrivant pas à ses fins, avait fini par se glisser sous son lit. Et quand il était rentré à l'hôtel, il avait entendu un bruit terrible qui lui avait fait peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas des souris, qu'est-ce qui se passe? Il s'était mis à quatre pattes, il avait vu cette dame. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de votre amour. Et puis ça s'arrêtait là. Alors je lui avais dit, oui, mais et alors? Alors il m'avait dit, et alors? J'ai toujours été un homme bien élevé.
Extraordinaire personne.
Mais puis je voudrais dire aussi autre chose. On parlait des gens qui ont eu l'influence sur lui, bien évidemment Félix Marouani, mais nous avons eu la chance de pénétrer un peu dans son intimité l'année dernière pour préparer ce fameux casino, et j'étais émerveillée et touchée par la passion que sa femme et son fils avaient pour lui et l'atmosphère merveilleuse de famille qu'il y avait. Tout le monde se consultait, tout le monde parlait, tout le monde écoutait l'autre avec énormément de tendresse, et c'était un climat que j'ai rarement rencontré à ce point. Voilà.
Ouais. Moi, je voudrais quand même, si vous passez votre micro à Thierry, on a parlé de Katharina et Abel. Alors, c'est quand même quelque chose. Je suis sûr que s'il nous écoute, il va en rire. Allez.
Mais vous savez, justement, moi, je l'ai retiré du spectacle. Oui,
mais
que
alors, je trouve en hommage à Tino Rossi, puisque ça le faisait sourire, et je suis sûr que ceux qui le connaissent bien doivent reconnaître qu'il ne trouvait pas cet hommage déplacé ce soir.
Non, je crois qu'il m'aimait bien.
Oh, Katharina, ta belle Chichi, écoute, l'amour t'appelle Chichi, pourquoi dire non maintenant? Oh, oh, faut profiter tant qu'il est temps. Oh, oh, plus tard quand tu seras vieille, tch, tu diras baissant l'oreille, tch, si j'avais su dans ce temps-là, oh, 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 ma belle Catherine, oh.
Voilà, on peut applaudir Thierry et je sais que Thierry Luron, qui a accepté de venir ce soir, est venu avec beaucoup de scrupules, il me l'a dit, et j'ai essayé de le convaincre, et je crois que tous ceux qui sont ici, qui ont été des intimes de Tino, et aussi Mireille, qui était très proche de lui jusqu'à la fin, doit reconnaître que c'était pas déplacé d'imiter Tino, parce qu'il aimait qu'on l'imite.
C'est vrai, il imite, et je voudrais souligner ce qu'a souligné Mariti, c'est que Lily, sa femme, a été, ainsi que son fils et sa fille Pierrette, admirable, formidable, vraiment.
Et c'était vraiment une grande famille que cette famille qui vivait autour de Tino pour la chanson, pour l'amour, le rêve et le merveilleux.
Dans une vieille ruelle, tout près de la citadelle d'Ajaccio, dans la nuit toujours si belle, on entend des ritournelles, des bravos. Les touristes en balade écoutent les sérénades du pays, et plus rien n'a d'importance quand une vieille romance vous séduit. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Le temps passe comme un rêve, tour à tour chacun se lève pour chanter. Et l'on chanterait encore s'il ne fallait à l'aurore s'arrêter. Mais les cœurs de tous les Corses battent avec plus de force, de chaleur, quand s'élève l'Ajaccienne, que pour finir ils reprennent tous en cœur. Des guitares viennent filles et garçons, ayato, ayato, et chacun y chante sa chanson. Ayato, ayato, si Napoléon revenait près de sa maison, ayato, ayato, lui aussi chanterait sa chanson. L'empereur prodigue de la gloire.
Voilà, c'était quand même encore un grand moment, et vous voyez, nous n'avions pas oublié d'évoquer aussi cette famille de Tino Rossi. Il y tenait beaucoup, et ils avaient raison, et Mireille, et Félix Marouani, et les Carpentiers, de rappeler cette importance de la famille pour Tino. On avait dit au moment où Laurent a commencé sa carrière, car il est difficile de s'appeler Rossi, même si on a un prénom et qu'il est celui de Laurent. Il est difficile de commencer une carrière. Eh bien, je crois qu'il faut le dire ce soir, jamais, jamais, Tino Rossi n'est intervenu. Et Laurent a fait sa carrière, soutenu par son père, mais en totale indépendance et quelquefois à côté, bien souvent à part. Et cela fait partie aussi des règles de cette famille profondément ancrée dans ses racines, Guy Béard. Hein. On a entendu Napoléon tout à l'heure, mais on peut pas ne pas parler de la Corse quand même. Hein.
Il chantait en Corse, je l'ai entendu à la guitare, à côté de Bernard Buffet et puis d'autres inconnus, mais on cite toujours des noms parce que ce sont des noms connus. Et il aimait avant tout chanter en Corse. Et il n'a pas bougé de cela depuis ses débuts. Et quelqu'un qui ne perd pas ses racines, c'est très émouvant. Voilà.
Eh bien peut-être, à propos d'inconnus, il y a peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, que les téléspectateurs n'ont pas encore découvert, qui est la personne qui est derrière moi, c'est Yasmine Gouessant. Et vous avez été très proche de Scotto pendant plusieurs années. Et vous avez eu l'occasion, à cette époque-là, de rencontrer Tino Rossi.
Évidemment, puisque j'ai...
Vous me disiez à propos de Vieni que...
Eh bien, je vous disais tout simplement que dans Parade de France, la première fois que Tino a chanté au Casino de Paris, il a créé simplement deux chansons, c'est « Au Corsile d'amour » et « Vieni, Vieni, Vieni ». Et je dois vous dire que lorsqu'il a terminé le spectacle, son spectacle, il y a eu un silence de mort dans la salle qui a duré au moins 3 ou 4 secondes. Et brusquement, tout le monde s'est levé. Tout le monde a crié bravo, bravo, bravo. Ça a été un véritable
triomphe. Quel était le rapport avec Scotto ? On parlait de la bande tout à l'heure à propos de ce que disait Dieu, Béard.
Vous savez très bien que Vincent Scotto a un petit peu découvert Tino Rossi tout de même. Nous l'avons d'ailleurs découvert ensemble à Lyon, quand il passait au cinéma Pathé, en même temps que Damia d'ailleurs, qui faisait une attraction à ce moment-là. Et le soir où nous l'avons vu, nous avons bavardé avec Tino pendant environ deux heures et demie. Et Scotto était terriblement emballé. Il a dit « Je ferai de toi une vedette, petit. » Oh, ben, il lui dit « Monsieur Scotto, ça ne dure pas.
» Ça a quand même duré un sacré bout de temps. Et lui a même dit après à d'autres, et je pense à vous, Georges Guettari, il est quand même pour quelque chose à l'origine de votre carrière.
Ah ben, il est pour beaucoup, puisque je suis arrivé en France en 1934 pour faire mes études commerciales. J'ai vu Paris couvert des affiches de Tino. Il était mince, il avait un foulard rouge et une guitare. Et j'ai été le voir au Casino de Paris. En effet, comme disait Marouani, c'était en 1934. Et c'est là que j'ai entendu toutes ces chansons que j'écoutais à la radio. Et plus tard, quand j'ai dû auditionner pour l'orchestre de Jo Bouillon, j'ai pris ma guitare et j'ai chanté en imitant Patino. Mais une chanson, c'était la seule que je connaissais. Je connaissais les autres bien, mais je connaissais... Veni, 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 tu sei bella, 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 quanto a me. Veni, 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 tu sei bella, 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 quanto a me. Paola, sei la più bella, la rondinella, nel mio cuore. Paola, voglio cantare una canzone d'amore.
À travers cette émission, à travers les propos tenus, les anecdotes racontées, les chansons entendues, les souvenirs rappelés, nous avons essayé de vous donner une image de Tino Rossi vivant, car depuis l'ère de l'audiovisuel, ils sont de toute façon quelque part à côté de nous, soit par le disque, soit par la télévision. Et aussi par le cinéma. Alors, le cinéma, il faut bien en parler. Alain Beverini, qui est avec nous, a regardé Tino Rossi au cinéma. Si j'ai fait quelques bons calculs ce matin, j'ai déterminé, grâce à une importante documentation, je dirais tout de suite, qu'il a tourné une trentaine de films entre 1934 et 1955, Tino Rossi.
Oui, une trentaine de films, mais on ne peut pas dire que, comme Tino Rossi, comme Maurice Chevalier et même Elvis Presley après, le cinéma a apporté de la célébrité à Tino Rossi.
C'était un complément.
C'est ça, le cinéma, c'était la suite logique de son succès de la scène, et ça a peut-être, en revanche, amplifié ce succès.
Alors, le cinéma, Tino Rossi, départ pour les étoiles, et l'étoile de Tino Rossi. vedette de cinéma.
Marine Hena, paraisse encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour chanter cette rumba d'amour. Quand je te tiens là sur mon cœur, pour moi c'est un tel bonheur, comme on ne peut l'exprimer, tout mon être est transformé. Je voudrais que ce moment qui me trouble éperdument se prolonge éternellement. Ah, ah, ah.
Viens ce soir ou je ferai un malheur.
Tout près de toi qu'il fait bon, blotti contre ton épaule, sous tes cheveux qui me frôlent, je sens passer des frissons. Soudain je perds la raison, et dans mon cœur tout chavire. Si dans tes yeux je peux rire, tout près de toi qu'il fait bon.
Voilà, nous en avons retrouvé quelques-uns de ces titres et de ces évocations en chanson du personnage de Tino Rossi, enfin de l'acteur Tino Rossi au cinéma. Là.
Oui, alors, ce qu'on a pu constater, c'est que ce qui était là en 1935, c'est que les premiers rôles qu'il a eus étaient des petits rôles de chanteur, justement. On l'a utilisé dans les premiers films, et notamment dans Ademaille au Moyen-Âge de Noël Noël, et puis Justin de Marseille, qui est en fait son premier film que Maurice Tourneur lui a donné, des tout petits rôles de chanteur. Mais le succès vient très vite avec Marinella, dès l'année d'après, en 1936, où là, il est carrément tête d'affiche. Et là, c'est le triomphe. Parce que, bien évidemment, Tino Rossi, c'était la voix. Mais ce n'était pas que la voix, c'était aussi, à cette époque-là, une silhouette, une prestance. On dirait aujourd'hui un look. Le look du séducteur, les cheveux gominés, les yeux de braise. Bon, effectivement, tout à l'heure, Mariti évoquait Rudolph Valentino. On était en plein dans cette époque-là. Et donc, les femmes déliraient devant Tino au cinéma. En revanche, on pourrait dire que les hommes et les critiques de cinéma, eux, ils étaient nettement plus sceptiques. Il faut dire que le jeu de Tino Rossi en tant que comédien était un petit peu guindé, un petit peu raide. Il ne savait pas trop bien se comporter devant la caméra. À tel point qu'il était allé chercher Charles Dullin, le grand Dullin, pour lui donner des leçons. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce que dans les mémoires que Tino Rossi a écrit, l'entretien qu'il a eu avec Charles Dullin. Je trouve le livre et je vous le lis.
Oui, il faut dire que Tino avait écrit Tino.
Oui, c'est ça. C'est chez Stock, hein. Mon cher Tino, le seul défaut que j'ai pu déceler dans votre façon d'interpréter un texte réside dans votre articulation. Vous butez un peu trop sur les mots, mais cela provient de votre accent corse. Rien de grave, assouplissez votre prononciation et tout ira bien. Car votre voix est bien placée. Par contre, en ce qui concerne votre jeu d'acteur, je ne puis rien faire pour vous. Charles Dullin s'était tu un long moment, puis il avait conclu en me tapotant amicalement l'épaule. Vous avez la comédie dans le sang. Je n'ai rien à vous apprendre, vous récitez d'une façon très naturelle. Tout ce que vous aurez à acquérir, ce sera de la pratique devant les caméras et savoir dominer votre anxiété. Voilà les conseils que Charles Dullin donnait à Tino Rossi, à peu près à l'époque où Tino Rossi commençait au cinéma. Alors, par la suite, bien sûr, il y a eu une trentaine de films, on les a évoqués, on peut en retrouver quelques titres. Malheureusement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces films aient marqué vraiment. Mais on peut quand même citer... Lumière de Paris, Mon amour est près de toi, Fièvre de Delannoy.
Ah ben oui, Fièvre de Delannoy, et bien puisque vous parlez de fièvre, nous ne l'avions pas oublié, et voici du reste un extrait de Fièvre de Delannoy que citait Alain Béverini.
Que pensez-vous de madame ?
Monsieur, je pense que madame est très bonne, tu vois ?
Eh, très bonne, ça ne veut pas dire grand-chose. Franchement, Georges, vous ne la trouvez pas un peu trop... conjugale ?
Conjugale ?
Il y a longtemps que vous êtes à notre service, Georges.
3 ans, monsieur.
Et depuis 3 ans, vous n'avez jamais remarqué que madame rendait la vie impossible. Pas de tabac, pas d'alcool.
C'est pour le bien de monsieur.
Voilà, c'est pour le bien de monsieur. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez de monsieur?
Mais madame, Monsieur est très bon aussi.
Ça ne veut pas dire grand-chose.
Oui, mais il y a le ton.
Quoique...
Quoi?
Quoique depuis quelque temps, monsieur nous donne bien du mal.
Il est blanc.
Georges, vous êtes renvoyé.
Bien, monsieur. En tout cas, on peut bien le dire, si tous les ménages étaient aussi unis que celui de monsieur et madame, il n'y aurait pas tant de divorces.
Georges, je vous réengage.
C'est bien, monsieur.
Chérie. C'est vrai ce que dit Georges?
Quoi?
Que nous avons l'air de jeunes mariés.
Il a dit ça, Georges?
Non, mais il le pense.
Oh, Georges est un psychologue.
Oh, je suis heureuse, heureuse. Tu ne peux pas savoir.
Mais si, je sais.
Quand je te regarde, il me semble que je te vois pour la première fois.
Comme à Toulouse?
Voilà, Tino Rossi dans Fièvre de Delannoy. Et puis, quand même, il est resté de cette période cinématographique beaucoup de choses pour la chanson, parce qu'il n'y a pas que la chanson qui a apporté au cinéma, le cinéma a apporté à la chanson.
Bien sûr, d'ailleurs, dans Fièvre, il chantait l'Ave Maria de Gounod aussi. Et puis, Marcel Pagnol, quand il l'a fait tourner dans, je crois, le premier film en couleur de Tino Rossi avec Jacqueline Bouvier, qui est devenue Jacqueline Pagnol, La Belle Meunière, où Tino Rossi interprétait tout simplement Schubert. Donc, à travers... Georges Guettari disait, au moment où on a lancé la séquence sur Fièvre, disait qu'il y a aussi Naples au baiser de feu, il y a aussi des films qui sont devenus, par la suite d'ailleurs, Naples au baiser de feu est devenu un succès cinématographique et un succès d'opérette quelques années plus tard. Donc, si vous voulez, les chansons de Tino Rossi, on les retrouve à travers tous ces films. Et il y a un film dont on peut parler, parce qu'il a certainement, il est à l'origine de la chanson la plus célèbre de Tino Rossi, c'est Destin. Et Destin, c'est un mélodrame qui a été tourné en 1947, et dans lequel Tino Rossi, d'ailleurs, jouait deux rôles. Le rôle du bon frère et du mauvais frère. Il y en avait un qui était un chanteur, l'autre qui était carrément un escroc, un gangster, un kidnappeur d'enfants. Et le bon Tino, lui, retrouvait l'enfant. Et la chanson de ce film, ben c'est ni plus ni moins que Petit Papa Noël.
Alors, si vous le voulez, avec tous ceux qui sont ici, à quelques minutes de la fin de cette émission spéciale Tino Rossi, eh bien, Petit Papa Noël, allez-y.
De temps que le jour se lève pour voir si tu m'attends. Tous les beaux jours que je vois en rêve et que je te commande, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes
enfants. Voilà, petit papa Noël, c'était Destin, et Georges Craven lui me rappelait que Fièvre de la Noix, c'était Prévert qui avait signé les dialogues, Georges Craven, c'est ça?
Oui, ce qui était un titre de noblesse pour la carrière cinématographique de Tino Rossi, je pense que ça méritait d'être dit.
Oui. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'être venus sur ce plateau de TF1 pour cette émission spéciale. Merci aussi à tous ceux qui nous ont permis de l'organiser si vite, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec une émission préparée de longue date. Mais comme le disait tout à l'heure Guy Béard en aparté, la mort, ça ne s'organise pas.
Mais TF1, ça bouge maintenant.
Mais au moins, ce soir, nous étions au rendez-vous de l'actualité. C'est ce qu'avait souhaité notre président, Hervé Bourges. Nous étions au cœur même de la chanson française avec Tino Rossi, qui ne meurt pas pour nous, puisqu'il reste très présent à nos côtés. Merci à toutes et à tous. Peut-être, M. Guy Béard, du reste, il faut signaler que Tino avait enregistré L'Eau Vive.
Oui, je crois.
C'était une bonne chose pour le jeune, parce que jeune, regardez, le 45 tours, ça date quand même d'il y a un certain moment, non? Ce 45 tours de Tino Rossi sur lequel il y a L'Eau Vive, il est préhistorique.
Et une chanson que j'aime beaucoup de lui, enfin par lui, mais enfin ça finit par lui appartenir et nous appartenir à tous. Bon, c'était une étoile, c'est une sorte aussi d'Elvis Presley latin. Il a lancé les rythmes afro-cubains, il avait les filles autour de lui. Maintenant, c'est une sorte de petite étoile dans nos yeux et dans le ciel. C'est tant qu'il y aura des étoiles
Sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Nous, les gars sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut les plus beaux décors. Ici, à la des étoiles, sous la voûte des cieux, il y aura la nuit sans voile, du bonheur pour les gueux.
Merci de nous avoir rappelé ce souvenir. L'étoile brillera encore longtemps. Vous avez certainement été très nombreux à la chanter avec nous ce soir. Après l'émerveillement, le rêve, il fallait un moment de poésie. C'était celui que nous venons de vivre. Au revoir, Tino Rossi.
Des copains, le temps du plaisir et de la jeunesse. Quand on a 18 ans, on n'a plus le temps d'attendre longtemps. C'est le temps qui s'en va, il faut à présent gagner de vitesse. C'est le temps qui s'enfuit, le temps des enfants d'aujourd'hui.
Êtes-vous satisfait d'avoir fait une carrière populaire ?
Je suis très fier d'être un chanteur populaire.